c'est le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable. C'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Oh, oh. Avec vous, bergers et mages, aux pieds de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosternés, Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur, un sauveur.
Bienvenue au dernier message de cette série sur l'Évangile de Jean que nous avons intitulé « La source ». Et ce matin, notre thème, c'est « La source qui offre la vie ». Et en ce mois de décembre qui approche, en ce moment, je vous entends, vous dites, il me semble qu'on est de bonne heure. C'était la parade du Père Noël hier à Montréal. Et la semaine prochaine, c'est le baptême d'eau. Et commençant le dernier baptême de l'année, et commençant le 3 décembre, on entre dans notre saison de l'année où nous allons ensemble, en ce mois de décembre encore cette année, nous allons offrir la vie à des milliers de personnes ensemble. En décembre, la source qui offre la vie. Le 20 décembre, il va y avoir plus de 5000 personnes ici qui vont recevoir dans cette salle qui va avoir été transformée en immense centre de distribution. Il va y avoir des milliers de personnes qui vont recevoir des paniers alimentaires, chacun d'une valeur de 150 à 200 $. Vont recevoir des milliers d'enfants qui vont recevoir des cadeaux. Nous allons aller faire des Noëls partout, aller offrir la vie, aller offrir des Noëls dans les CHSLD pour personnes âgées, dans les hôpitaux avec les parents et les enfants qui sont malades, dans des centres pour femmes, dans les centres jeunesse au 21-59, notre centre pour les jeunes, le 25 décembre, il va y avoir des centaines, si ce n'est des milliers de crêpes qui vont être offertes, des cadeaux à chacun des jeunes qui sont là. Ça va aller de Longueuil à partout dans le Grand Rive-Sud. Également, ça va aller vers Haïti où il va y avoir des Noëls offerts par nos missionnaires là-bas en Syrie. En ce moment, on a une équipe ce week-end parce que nous allons aller offrir des Noëls dans les villages autochtones avec les enfants parmi les plus pauvres des Premières Nations dans tout le Canada, ici dans le nord du Québec. Il va y avoir également, nous allons offrir la vie spirituellement avec cette année, non pas un week-end de concert, mais quatre dimanches, le 3, le 10, le 17 et le 23 décembre à 9h et 11h30, les deux réunions du matin, 8 grandes célébrations. À chaque semaine, une célébration, un concert, message, musique différent. Ce ne sera pas le même pendant tout le mois. À chaque dimanche pour vous, pour inviter vos amis. Et cette année, nous faisons un pas de foi énorme. Les années passées, il y avait un coût, il y avait un billet pour nous aider à défrayer les coûts. On veut voir 10, 12, 15 000 personnes venir à ces concerts. Alors cette année, on fait un pas de foi. Ça va être gratuit. Ça va être le don gratuit. Les concerts, toutes les célébrations vont être gratuites. La semaine passée, vous avez applaudi. Mais après, quand j'ai dit gratuit, vous avez applaudi. Mais après ça, j'ai dit que tous ceux qui applaudissent aillent dans leur poche pour faire un don. Alors vous applaudissez pas ce matin. Alors, voulez-vous applaudir les concerts gratuits à l'Église Nouvelle Vie? L'équipe, prier pour les artistes, les chorales, ensemble vocal, décor, éclairage, son, slam, enfants, chorégraphie et message. On va jeûner, on va prier parce que nous allons offrir ensemble ce que j'appelle la gratuité et la grandeur de l'offre de la vie. Lorsqu'on regarde dans notre texte de la femme samaritaine, de Jésus avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, allez voir sur Internet. Le message est déjà là, vous allez avoir la première partie. C'est un texte, littéralement, ce message, ce texte, cette rencontre en est une d'évangélisation. C'est littéralement Jésus, c'est Jésus qui partage, qui témoigne qui il est à une femme. C'est elle qui le témoigne à tout son entourage. Et c'est ces Samaritains qui, avant elle, ne savaient rien, qui montent vers Jésus, qui entendent le témoignage et qui déclareront, nous savons maintenant vraiment que tu es le sauveur du monde. La gratuité et la grandeur de l'offre de la vie. Le texte commence dans Jean 4 avec ces mots qu'on a approfondis la semaine dernière. Comme il fallait que Jésus passe par la Samarie. Il est arrivé dans une ville de Samarie. Il y avait une femme qui était là, près du puits de Jacob. Il fallait, ces mots sont imprimés, sont imprégnés, sont écrits sur nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Il fallait qu'il aille en Samarie. Personne ne voulait aller en Samarie. C'était le terrain, c'était le pays des oubliés, des négligés, des méprisés, des laissés pour compte de ceux qu'on a discartés. Mais il fallait qu'il y aille. Il faut, c'est notre passion, c'est notre cœur. Il faut que nous allions, il faut que nous fassions tout ce qu'on va faire à Noël parce que Jésus avait un rendez-vous divin avec une seule femme que tout le monde avait abandonné, même sa famille, avait été laissée entière, complètement laissée pour compte, mais elle est tellement précieuse, il faut qu'il y aille parce qu'il y a elle et notre cœur bouillonne ensemble ce matin à la pensée que nous avons des milliers de rendez-vous divins ensemble pendant le mois de décembre, des gens que vous allez invités qui vont s'approcher comme les Samaritains et vont découvrir pour eux-mêmes. Nous allons offrir la vie. Je déclare ce lieu pour le mois de décembre un endroit où la vie va couler, où la source va couler et où l'ennemi ne pourra l'empêcher. Un lieu où les vies vont être transformées. J'aimerais que vous l'acclamiez avec moi à l'avance pour ce que Dieu va faire. Jean chapitre 4, versets 6 à 10, la gratuité et la grandeur de l'offre de la vie. Là, Jésus se trouvait, le puits de Jacob, verset 6, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à moi, qui suis une femme et une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, c'est la gratuité et la grandeur de la source de vie que nous allons offrir. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don, c'est un don gratuit, le don de Dieu, et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné une eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Les Juifs et les Samaritains se détestaient, étaient des ennemis générationnels. Vous pouvez imaginer, de génération en génération en guerre, les Juifs les méprisant. La semaine dernière, on a approfondi ensemble toutes les ramifications historiques, pourquoi que tout ça prenait place. En termes modernes, imaginez le même genre d'antagonisme qu'aujourd'hui en Israël entre les Juifs et les Palestiniens, ou dans certaines nations africaines, lorsque j'étais au Rwanda ou au Burundi, historiquement entre les Hutus et les Tutsis, ou en Irlande du Nord pendant des décennies entre catholiques et entre Juifs et protestants, pardon, et de génération en génération. Il y avait ce mur infranchissable. Cette femme était rejetée, elle était méprisée. Elle vient au puits à une heure qui est complètement hors de la norme. Il y avait un puits dans la ville, elle va au puits en dehors de la ville. Il y avait à tous les matins, si vous êtes même dans plusieurs pays où c'est encore le cas, en Afrique et ailleurs, le puits était le lieu de socialisation, c'était le lieu où on venait en famille le matin pour la journée. Mais elle n'y va pas le matin, elle y va à la sixième heure. Selon les commentateurs, si c'est l'heure romaine, c'était 6 heures le soir, si c'est l'heure des Juifs, c'était la sixième heure, il était midi, mais elle était hors des heures, elle y va seule, parce qu'elle est méprisée, elle est rejetée. Vous allez savoir pourquoi dans un instant. Par ses choix moraux, par ses échecs, par qui elle était. Et c'est quelque chose d'être, en tant que Samaritaine, elle était méprisée. En tant que femme, elle était méprisée à cette époque par la domination masculine de l'époque et par le religieux de l'époque qui avilissait la femme. Et en tant que Samaritaine, elle était méprisée par les Juifs. Et elle était, vous allez voir, par tous ses choix de vie, même parmi les Samaritains, parmi les Samaritains qui sont méprisés, elle est à l'extérieur. Elle va chercher de l'eau à un moment où elle espère qu'elle ne verra personne. C'est une douleur particulière, c'est une douleur profonde d'être méprisée par les siens, par ceux de ta famille. Des parents qui sont ici, qui l'ont vécu avec leurs enfants, ou des enfants et nos jeunes au 21-59 qui ont été rejetés, ont été abandonnés. C'est une douleur particulière. Jésus la rejoint et renverse toutes les barrières. Les barrières hommes-femmes, les barrières raciales, sociales, morales, religieuses. Il engage une conversation respectueuse avec elle et elle est stupéfaite. Comment toi, un homme avec une femme, un rabbin, un enseignant, un maître avec une femme comme moi, une samaritaine, comment est-ce que toi, tu viens m'offrir, comment est-ce que toi, tu viens m'offrir cette eau, cette source? Parce qu'à son époque, comme tout le monde, elle voyait la vie comme une échelle. Elle voit la vie comme une échelle. Ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, il faut que tu gagnes, il faut que tu mérites, il faut que tu gravisses des échelons. Il y a ceux qui ont gagné, il y a ceux qui ont perdu. Winners and losers. Il y a ceux qui... c'était comme ça dans la société et elle était au plus bas du plus bas. Et c'était comme ça aussi par le religieux était de la même façon. Mais Jésus vient et dit, si tu connaissais le don, si tu connaissais le don de Dieu, la gratuité et la grandeur du don, tu n'as rien à apporter à moi, tu n'as rien à gagner, tu n'as rien à impressionner. Le christianisme est gratuit. Qu'est-ce qui te disqualifie de recevoir, par exemple, ton salaire, c'est si tu n'as pas fait le travail, si tu n'as pas atteint les objectifs? La seule chose qui peut t'empêcher de recevoir le don gratuit de la source de vie que Jésus donne, c'est l'orgueil. C'est de ne pas le reconnaître, c'est de ne pas, parce que c'est gratuit, tu ne peux pas le mériter. Il y a une échelle, elle voyait la religion comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, elle voyait la religion comme une échelle et les religieux qui sont en haut de l'échelle et qui pointent le doigt à ceux qui sont en bas, les mécréants ou les infidèles, les impurs, tu dois faire ça. Et dans le pire du religieux radical, tu as même du haut à ceux qui ont commis ultime de détruire tous les mécréants. Mais dans toutes les grandes religions, tu as besoin de faire ça, monter à notre niveau. Tu as besoin de mériter ça. Tu as besoin d'œil. Souvent, du haut de l'échelle, le religieux qui pointe le doigt et en bas, les gens. Et c'est comme ça dans la société aussi. Des milliers de personnes vont venir ici pour les paniers de Noël et tout le reste à un moment de leur vie où ils se sentent en bas de l'échelle. J'ai pas gagné ce qu'il fallait. J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai pas mérité ce qu'il fallait. Mais Jésus dit non. Jésus dit, tu n'as pas besoin de payer avec ta bonté, tes bonnes œuvres, ta rectitude morale, tes succès. Tu n'as pas besoin de payer avec tes relations toujours parfaites, avec des relations parfaites, avec une famille en parfait état. Tu n'as pas besoin de mériter d'être en haut par une vie sans échec en étant religieux. Tu n'as pas besoin de monter, comme plusieurs religions le demandent, avec une obéissance aveugle et muette ou un passé sans tâche. Non, tu n'as pas besoin de monter l'échelle vers moi. C'est moi qui descends vers toi. C'est moi qui viens à toi. Si tu connaissais le don de Dieu, quelqu'un devrait dire amen. Dites à la personne près de vous, c'est gratuit. Dites ça à la personne près de vous, c'est gratuit. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira, le verset 13 et 14, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira, il dit à la Samaritaine, écoute, il y a toutes ces eaux que ce monde offre vont te décevoir terriblement, mais celui qui boira de l'eau que moi je vais lui donner, celle qui va boire de l'eau que je vais lui donner, n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui ou en elle une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Jésus dit en fait, la source que j'offre de paix, de pardon, de grâce, de force, de capacité divine, de libération, de liberté, la source que j'offre, mon salut, mon pardon, ma vie en toi est aussi nécessaire pour toi spirituellement que l'eau peut l'être physiquement pour l'être humain. L'être humain est composé à 50 % d'eau et c'est pour ça que la soif, mourir de soif est une toute la déshydratation, mourir de soif est la mort la plus atroce. Jésus dit littéralement, si tu ne reçois pas ce que je t'offre, tu meurs. La grandeur, c'est que la source est profonde, au-delà de ce qu'il peut y avoir en surface. C'est pas ça, l'image est importante, c'est une source qui se renouvelle. Et c'est une source qui est en profondeur, qui est intérieure, qui jaillit de l'intérieur de la vie de celui qui s'abandonne à Dieu. Il y a plein de choses qui sont en surface. La religion en surface va toujours nous laisser sur notre soif. Si tu bois de ça, tu auras toujours soif. L'éducation en elle-même seule va toujours te laisser sur ta soif. Le matérialisme va toujours te laisser en surface, te laisser sur ta soif. Mais à Noël, en cette fin d'année, croyez-moi, en ce mois de décembre, où il va y avoir les parties, les étourdissements et les fêtes de bureau et les cadeaux et les cartes de crédit qui s'empilent et la musique et tout le monde et le phare et tout pour essayer de s'étourdir en surface des gens qui vont se plaquer un sourire dans le visage puis essayer de s'étourdir alors qu'en surface, il y a toute cette animation puis à l'intérieur, tellement un vide, tellement une solitude, tellement tout le monde sait que c'est le temps de l'année où les douleurs sont exacerbées. Jésus ne dit pas qu'un croyant va être exempt de toute souffrance ou de toute, mais il dit, voici le secret, la différence. Un croyant, quelqu'un qui est chrétien, qui boit à la source, quel que soit ce qui est arrivé en 2017, quel que soit deuil et opposition et douleur, alors que je vous apporte ce message cette année, mon épouse et moi et notre famille, plusieurs personnes proches qui sont décédées, nos deux mamans dans la même année. J'ai fait les funérailles de nos deux mamans dans la même année, des amis proches qui ont décédé, des combats à différents niveaux. Il y a des choses réelles, mais en surface. Mais l'inverse est vrai. Le croyant, il y a une source à l'intérieur. La surface peut être attaquée, mais en dessous de ça, il y a une source de paix, il y a une source de joie, il y a une source de confiance, il y a une source de force que rien ni personne ne peut arrêter. Quelqu'un devrait dire oui. Cette source-là, tout le monde en a soif, qu'il l'admette, le réalise, le reconnaisse ou non. J'ai intéressé de lire, depuis que je suis tout jeune, j'avais 17-18 ans, puis je lisais des livres, L'étranger, tout ça, d'Albert Camus, et puis j'étais intéressé de lire un article récemment sur lui. Lorsqu'il a gagné son prix Nobel de littérature, on a dit de lui, il incarne une des plus hautes consciences morales du 20e siècle. En prix Nobel en 1957, on a dit, lorsqu'on lui a remis le prix, pour l'ensemble d'une œuvre qui met en lumière, avec un sérieux pénétrant, les quêtes, recherches profondes et problèmes qui se posent de nos jours, se posent de nos jours dans la conscience des hommes. Camus est né en Algérie, extrême pauvreté, de parents qui ne savaient pas écrire ou à peine écrire ou s'exprimer, s'exprimait difficilement. Il devient étudiant en littérature, en histoire, philosophie, avec distinction. Il est un écrivain de marque de toute son époque, philosophe, romancier, dramaturge, novelliste, reçoit le prix Nobel. Ses écrits reposent sur le développement d'un humanisme fondé, je cite encore d'un article sur lui, sur une prise de conscience de l'absurdité et du vide du matériel et de la condition humaine et d'un refus radical comme réponse à cette absurdité. Ce refus qui conduit à l'action qui, dans un sens, selon Camus, et je cite, « qui donne un sens au monde et à l'existence, et alors naît la joie étrange qui aide à vivre et à mourir. » Il est mort dramatiquement dans un accident de voiture en 1960 à l'âge de 47 ans, alors qu'il y avait dans sa poche, il avait un manuscrit inachevé de son dernière œuvre qui a été publiée quand même, qui s'appelait « Le premier homme », où nous lisons, où on y retrouve la citation suivante, mot à mot, du premier homme, l'ouvrage inachevé d'Albert Camus. Il écrit, un de ses personnages écrit, « Parce que j'ai été habité toute ma vie d'une soif d'éternité, de paix, de sens et de justice, j'ai bu jusqu'à être ivre-mort et été avec toutes ces femmes aussi égarées que moi dans 1000 nuits sans fin pour m'endormir abruti et me réveiller avec dans la bouche le goût amer de mon état moral, du vide de toutes ces philosophies et connaissances et combats dans mon cœur qui cherchent encore l'éternel, qui cherchent l'absolu. Bien que si dégoûté par ce qui est si vil et laid en moi, je cherche et je cherche encore. La grandeur de l'offre, la grandeur de l'offre que Jésus donne, la beauté, la gratuité de l'offre que Jésus donne. Jésus dit, ce que tu cherches, je te l'offrirai. Et dans ces mots de cette femme qui, lorsqu'elle est en contact avec le Seigneur, elle est retournée dans son village. Et la Bible nous dit ce qu'elle leur a dit, Jean, dans le même texte, Jean 4, 28, 29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Venez voir celui qui sait tout de moi. Il sait toutes mes erreurs, il sait toutes mes hontes, il sait tout de moi, il sait tout ce que j'ai fait, il sait ce que je voudrais que personne ne sache. Il sait tout de moi, mais il m'aime. Il sait tout de moi, mais il est mort pour moi. Il sait tout de moi et il dit, viens, je vais prendre ta souffrance, ta douleur, tes échecs et je vais te donner une eau vive. Je déclare par la grâce de Dieu, en décembre, nous allons offrir la gratuité et la grandeur. Si tu connaissais le don de Dieu, et des milliers vont le connaître ensemble, au nom de Jésus, et l'Église Nouvelle Vie dit Amen et Amen. Si tu connaissais la grandeur de Dieu, la gratuité, la grandeur de l'offre de la vie, la gravité de la blessure et la guérison de l'offre de la vie. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui suis une femme samaritaine à boire? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Lorsqu'elle s'est approchée du puits et qu'elle a vu un homme, elle a vu un homme juif, elle a vu par son vêtement, elle a vu qui il était, je suis certain qu'elle s'est... Oh! Elle aurait pu prendre les jambes à son cou, elle aurait pu faire volte-face et s'en aller tellement qu'elle avait peur d'être en... Il va me juger, il va me... Et lorsqu'elle s'approche de lui et qu'il lui dit, lui offre, lui propose, et lui dit, tiens, donne-moi à boire, je vais prendre de ta coupe, si tu veux, ta coupe à toi. Ta coupe de douleur, ta coupe de souffrance, ta coupe de mépris, ta coupe de rejet, je vais la boire avec toi. Si tu veux, ta douleur va devenir la mienne. C'était tellement incompréhensible pour elle. Et elle lui dit, « Seigneur, je veux boire. » Elle lui dit, « Je voudrais boire. Donne-moi. » La femme lui dit au verset 15, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » Vous savez, il y a des gens dans votre famille, dans la mienne, des amis de votre côté du mien, des compagnons de travail, des collègues à l'école, au cégep, à l'université, des gens qui ont connu Dieu, qui se sont éloignés, qui ont le même cri dans leur cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'aider à plus venir boire ici? Ils ont passé une année 2017 où je retourne à des choses qui me font du mal. Je voudrais arrêter de venir boire ici. Et là, Jésus va lui dire, Jésus va entrer dans une... va aller un petit peu plus profondément. Et si vous ne comprenez pas la profondeur du texte, c'est comme si, voilà, ce qui change le sujet. Non, il ne change pas de sujet, il va aller au vrai sujet. Verset 16, elle dit, donne-moi de l'eau pour que je n'ai plus à venir ici. Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas, vous pouvez le lire en séquence, c'est sûr que la conversation s'est passée comme ça. Seigneur, donne-moi de l'eau afin que, appelle ton mari. Seigneur, je n'ai pas de mari. Tu dis vrai que tu n'as pas de mari, tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu es en ce moment, c'est le 6e. Pause. Et elle répond, « Seigneur, oh, je vois que tu es prophète. » Est-ce qu'il est en train de changer la conversation? Non. Est-ce qu'il est en train de... Est-ce qu'il y a question de l'humilier, de la mettre en... Non. Je suis là, je suis la source d'eau. Et quelle que soit la gravité de la blessure, la guérison va maintenant être offerte avec cette offre de la vie, la guérison des tourments et traumatismes relationnels. 5 mariages. 5 divorces, une vie de rêves brisés, d'abandon, de rejet, de désillusion, une carence émotionnelle, c'est sûr, une codépendance, une femme qu'on peut imaginer. On ne sait pas la séquence, on ne sait pas, mais c'est certain que c'est une femme qui avait cru, une femme qui avait espéré, une femme qui avait des rêves, une femme probablement d'une grande beauté physiquement, qui a vu avec chaque échec, avec chaque un peu de son cœur, un peu de sa confiance, un peu de son assurance, un peu de sa beauté, un peu de ses espoirs, un peu de ses aspirations s'effriter. Jésus est en train de lui dire, laisse-moi te dire ce que cette source est, qui je suis. C'est ce que tu as toujours cherché dans toutes ces relations. Je suis ce celui qui t'aime inconditionnellement. Et en relation avec moi, je vais guérir, restaurer la beauté que Dieu avait mis en toi. Je suis celui, tout ce que tu cherches, tout ce que tu cherchais et qui te laisse, tout ce qui t'a laissé, tout ce que tu as perdu, je suis celui que tu cherchais et je veux te guérir dans les choses les plus profondes de ta vie. Ce que nous allons offrir. Chaque dimanche, chaque concert, chaque message, chaque geste de compassion, chaque panier, chaque cadeau, chaque rencontre, chaque message que nous allons offrir, chaque parole qui va être offerte, 3, 10, 17 et 23 décembre, c'est la nouvelle vie, va être Jésus qui dit « Je suis celui que tu cherches et je vais restaurer tout ce que tu as perdu. Je suis celui qui restaure et qui guérit. Si tu entres en relation avec moi, comme des millions l'ont fait, des centaines de millions à travers le monde qui témoignent, que cette relation avec lui m'amène à une guérison de ma relation avec moi-même, de recevoir un pardon que je peux maintenant donner, ma relation avec les gens autour de moi, ma relation avec mon passé, ma relation avec mon présent, ma relation avec mon avenir. Jésus dit, je suis celui qui peut restaurer la beauté dans ta vie. Je vois cette femme, je ne sais pas, comme à l'époque, comme son premier mariage, elle devait être très jeune. Je peux la voir d'une adolescente à travers chaque étape de sa vie, un rêve de quelque chose de beau, de beauté, une beauté dans mes relations, dans ma famille, dans ma vie, et avec chaque déception, avec chaque blessure, à être touchée, à être affectée, à être effritée. J'étais intéressé de lire un article récemment qui est apparu dans le Rolling Stones, avec l'article, le magazine Rolling Stone, avec l'actrice oscarisée, elle a gagné un Oscar, Halle Berry, qui a été deux fois nommée la plus belle femme du monde, mais qui se dit incapable de maintenir une relation durable avec un époux. Elle va de mariage en mariage. Elle a dit ceci à Rolling Stone, « Laissez-moi vous dire quelque chose sur la beauté. D'être perçue comme une reine de beauté ne m'a pas épargné aucune souffrance, aucune peine. L'amour a toujours été si dur comme inatteignable et déchirant pour moi. La beauté extérieure est essentiellement vide et sera toujours transitoire. Elle va toujours se faner. Ce que je cherche, c'est la beauté, la paix et la guérison qui me rendraient belle à l'intérieur. » D'Albert Camus, à Halle Berry, à toi et moi, à cette femme au bord du puits, il y a 2000 ans, Jésus dit « Viens, viens, je suis capable de guérir tous les traumatismes relationnels que tu as pu avoir et de restaurer la beauté de la vie abondante que j'avais préparée pour toi. » Et non seulement de guérir de tous ces tourments et traumatismes relationnels, mais guérir aussi des trahisons religieuses. Guérir des traditions religieuses. Elle dit, oui, mais nos pères, elle parle de ses pères religieux, ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront, proscuero, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père recherche. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Elle est bloquée, elle s'empêche presque de recevoir de lui à cause de nos pères. Le père religieux, le conflit religieux, le système religieux qui avait été érigé plus de 1000 ans auparavant et qui est devenu de génération en génération leur prison spirituellement. Comme dans notre nation, plein de gens qui vont hésiter, plein de gens qui restent loin de s'approcher de Jésus, du Dieu vivant, à cause de nos pères, à cause du système religieux. Je creusais et j'étudiais ce que le système samaritain sur le mont Gérizim, depuis des années, ce que ça produisait. Et quelques notes, c'était l'étude historique de nos pères. La seule chose qu'elle avait connue, c'était une mixture religieuse. Des sacrificateurs samaritains étaient promulgués par des prêtres qui étaient immoraux et qui étaient abuseurs. On promulguait une religion et on abusait les gens. C'était axé sur le rituel, sur les pèlerinages, le site, sept montagnes, ce site saint, les guerres religieuses, un autoritarisme légaliste et dominateur. Nos pères, ça représentait à l'époque, avaient laissé un héritage de cynisme, d'indifférence envers le religieux parce que ça ne change rien dans nos vies. Jésus dit « L'heure vient ». et elle est maintenant venue. Et quand vous lisez ça dans l'Évangile de Jean, il parle de lui, il parle de sa mort, il parle de sa résurrection. Il dit maintenant, ça c'est terminé, il y a un jour nouveau. C'est la mort et la fin de la religion pour ceux qui veulent entrer dans la réalité. Moi, Dieu est vérité, Dieu est esprit. Et maintenant, il va élever une génération, il va élever des multitudes d'hommes et de femmes qui vont l'adorer en esprit. Ça ne sera pas rituel extérieur. Puis ici, ça ne parle pas du Saint-Esprit, ça parle du cœur, de l'esprit humain qui va être rendu vivant. Une relation vraie et vivante et en vérité. Ça va être vrai, ça va être vivant, ça va changer des vies et ça va transformer pour toujours. Et il dit, c'est les adorateurs que le Père demande. Comprenez, il ne les demande pas, il ne les cherche pas parce que lui en a besoin, mais parce que nous, on a besoin. Et c'est pour ça que de 40 à 4 000 personnes à Nouvelle Vie depuis 24 ans, des multitudes viennent parce qu'ils disent on en a assez du rituel religieux, mais on a soif d'une relation vraie, en esprit et en vérité avec le Dieu vivant. Quelqu'un devrait dire oui. La gravité de la blessure, la guérison de tourments et traumatismes rationnels, de trahisons religieuses, et les guides et la générosité de l'offre de la vie. Gratuité et grandeur de l'offre de la vie, gravité et blessure, la guérison, mais les guides et la générosité de l'offre de la vie, c'est tellement magnifique. Jésus, le Seigneur, m'a dit, moi je suis Dieu, je m'en viens te le présenter, mais il faut que quelqu'un, moi, faut que moi je te le présente, et il faut que toi et elle partent, et elle va aller le présenter aux Samaritains. Et les Samaritains vont venir du village, ils vont venir le présenter au monde entier. C'est la première déclaration dans le Nouveau Testament. Il est vraiment le sauveur du monde à travers ses guides et cette générosité. C'est pour ça que Jésus dira tout de suite après la conversation avec la Samaritaine, il dira dans le même texte de Jean 4, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Les historiens nous disent que les Samaritains s'habillaient principalement en blanc. Il faut imaginer, alors qu'elle part, elle s'en va dans son village, et tout le village commence à monter, et alors qu'il voit ces multitudes de gens qui montent en blanc, ils disent, regardez, les champs sont blancs pour la moisson. C'est pas demain, c'est pas plus tard, c'est pas le réveil un jour, c'est maintenant. Celui qui moissonne reçoit une récompense et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Je vais vous dire à voix haute avec moi, ensemble. Jésus dit, pour que l'offre de la vie transforme et guérisse, il y a une synergie surnaturelle. Il faut qu'il y ait un ensemble. Les vrais adorateurs comprennent et s'approprient ce que Paul a dit dans Romains 10, versets 13, 15 et 17. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils s'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, mais ça prend quelqu'un qui, ça prend cette synergie. Jésus a modelé cette synergie de lui à la Samaritaine, de la Samaritaine à la foule, à tous ses amis et son entourage. Il dit, il y a ceux qui sèment, il y a ceux qui moissonnent, et ensemble, ils se réjouissent. Il y a un Seigneur, mais ça prend des serviteurs qui vont semer. Il y a des fruits, mais ça prend des fidèles. Qui vont partager leur foi. Des prédicateurs inspirés et intentionnels. Comment est-ce qu'ils vont entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Mais un peuple qui prie et qui devient partenaire pour inviter, comme elle a fait. Moi, je vais jeûner, moi, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. À chaque dimanche, je vais arriver ici et je prie un message de Dieu qui va seulement toucher les personnes que vous allez avoir invitées. Qui vont seulement... Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La foi va venir de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ça prend cette synergie. Ça prend une Samaritaine qui va aller malgré ses propres douleurs. Ça prend un maître, le Seigneur lui-même, qui partage à une personne et à elle, à l'autre. La bénédiction par des bénévoles. Des délivrances parce qu'il y a ceux qui donnent, qui sèment. Les miracles parce qu'il va y avoir tout ce qu'on va offrir pendant ce mois de décembre. Il va y avoir musique, il va y avoir message. Et chaque personne qui va accomplir son ministère. Tout le monde ici est appelé au ministère. Le mot ministère veut dire service. En ce mois de décembre, c'est ensemble. On a besoin de chaque personne pour que 10, 12, 15 000 personnes puissent venir ici. Que vous allez. Ça prend tout le monde. On va encore, à partir de la semaine prochaine, appeler des centaines de personnes à venir nous aider en bénévolat, distribution des paniers de tous les côtés. Ici même, à l'église, il y a plein de choses que vous pouvez faire. que vous devez faire, commencer à partir de ce matin à dire qui je vais inviter dimanche prochain. On va avoir des invitations magnifiques, invitations gratuites que vous allez pouvoir donner. Vous allez prendre le nombre que vous voulez, les distribuer partout à des gens à votre travail, parler aux gens autour de vous. Vous allez pouvoir prier. On a besoin de gens qui vont nous aider partout. Que lorsque les gens vont arriver par centaines lors des concerts 3, 10, 17 et 23, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde ici. Alors, les chrétiens de Nouvelle Vie vont dire, je veux aider, je veux faire ma part. Je vais arriver à l'heure, je ne serai pas en retard. Dites amen. Je vais arriver à l'heure, je vais être là. Je vais être souriant. Je ne couperai pas personne dans le stationnement de l'Église Nouvelle Vie. On accueille la visite, on accueille les amis, on accueille les gens. Je vais mettre mon plus beau sourire dans le couloir à l'arrière. Je vais prier pendant la réunion, je vais inviter, je vais participer, je vais me porter volontaire pour être à l'espace. Bienvenue à l'accueil, pour accueillir tous les gens qui vont répondre à l'appel. Je vais être là pour servir, je vais être là pour aider parce qu'il n'y a pas, il y a cette fille, il y a celui qui sème, il y a celui qui récolte, il y a celui qui va moissonner, il y a celui qui a semé. Il n'y a pas de trans, il y a des transformations parce qu'il y a des gens qui témoignent. Et dans le texte, Jésus nous donne juste un petit, très rapide, 5 minutes, un petit cours rapide sur comment témoigner votre foi pendant le mois de décembre pour les invités, comme la Samaritaine a fait pour cet impact. Les guides et la générosité de ceux qui offrent la vie. Voici 4 remarques importantes de comment témoigner. Les guides et la générosité de ceux qui offrent la vie, ceux qui vont partager l'Évangile, comme Jésus, s'élèvent au-dessus de leur zone de confort. Jésus est fatigué du voyage, au verset 6, on a lu, c'est la 6e heure, il est fatigué, le texte dit spécifiquement, assis au bord du puits, il était fatigué du voyage, et les disciples sont partis lui chercher à manger. Il a faim. Bon, moi, si j'étais le Fils de Dieu, j'aurais pas attendu après les disciples pour aller me chercher à manger, pouf, j'aurais fait apparaître un buffet, ça c'est sûr, sur plan, directement, au moins je peux faire ça, je suis le Fils de Dieu. Non, il y a quelque chose là-dedans, Jésus offre le pain de vie et l'eau de la source, alors qu'il a faim lui-même. Le royaume de Dieu avance par des gens qui ont encore des faims dans leur propre cœur, encore des questions sans réponse, des meurtrissures, mais qui sortent d'eux-mêmes pour offrir le pain de vie à ceux qui n'ont rien. Et il sort de sa zone de confort. Ce n'était pas, selon toutes les traditions, selon toute la culture, ce n'était pas approprié, ce n'était pas confortable pour lui, pour un homme juif, de parler seul avec une femme samaritaine au puits. Il sort de sa zone de confort. Il s'élève au-dessus de ses propres fins, ses propres préjugés, ses propres barrières. Qu'est-ce qui pourrait arriver à Nouvelle Vie si les 4000 personnes de l'Église disaient « Seigneur, rends-moi sensible, rends-moi attentif ». Il y a plusieurs années, je prêchais dans l'Ouest canadien à Kelowna, et une journée d'après-midi, quelqu'un de l'église qui dit « Ah, oh, pasteur, on veut vous amener voir ça. » Ils ont amené voir, puis là, j'ai mon ami Stéphane Bertsombe qui aurait raffolé de ce voyage-là, était intéressé par ces choses-là. On est allé dans une vigne, une des plus belles vignes du Canada, puis on était avec une experte, c'était de 3e génération de vignerons, puis là, elle nous expliquait tous les processus, puis elle parlait des raisins comme si c'était ses enfants. Il faut ça. Puis moi, après un certain temps, là, c'était juste « too much info ». Et je prêchais le soir, j'étais déjà rendu dans mon message du soir, fait que j'étais assis, puis elle donnait les détails, puis j'entendais des coups de coude, on va dire, fais semblant d'avoir l'air intéressé. Et j'étais juste comme, et puis avec comme 6 petites coupes, avec comme moins de... Là, elle expliquait le vin comme s'il y avait 8 teneurs dedans. Ah, lui, comme si le vin avait une personnalité. Ah, lui, ça, c'est un vin audacieux, timide, si, ça, c'est... Quoi? Est-ce que tu goûtes le bois, le caramel, le... Non! Alors... Tout ça, et moi, je cherchais désespérément une raison d'être là. Je sortais de mon corps, j'avais des expériences astrales. Et tout à coup, c'est pour ça que je suis allé, tout à coup, sur l'affiche, puis il y avait cette affiche, j'avais pris une photo, qui disait « Pour que le fruit soit cueilli, il faut que l'ombre, c'est comme un peu poétique, et pour que le fruit soit cultivé, il faut que l'ombre du vigneron tombe sur les vignes. » Je disais, la fille, excuse, elle était en train de m'expliquer le miel puis le bois. Je disais, excuse, c'est quoi ça? Pour que les vignes soient cultivées, il faut que l'ombre du vigneron soit sur les vignes. Ça, c'est mon père qui a mis ça. De génération en génération, il faut que tu sois proche des vignes. Il faut que tu les écoutes. Il faut que tu regardes. Il faut que tu sois proche. Et là, j'avais quelque chose. Il faut que tu sois où le monde sont, où les gens sont. Il faut que tu les écoutes. Il faut que tu sois hors de ta zone de confort. Mais nous allons ensemble être utilisés de Dieu, non seulement pour parler, mais pour écouter. Jésus était à l'écoute. Ils s'élèvent au-dessus de leur zone de confort. Ils sont à l'écoute. C'est pas témoigner sa foi, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. C'est une écoute, c'est une attention. Même selon certains... Bien des fois, si vous connaissez un peu le contexte, bien des fois, ce que la Samaritaine répondait, c'était juste vraiment à côté de la plaque. Je vais t'offrir, elle a le Fils de Dieu devant elle, je vais t'offrir l'eau qui va changer ta vie, une source. Et verset 10, ah ouais, comment, pourquoi, tout à coup, il dit, je vais t'offrir une eau qui va jaillir en toi jusqu'à dans la vie éternelle. Oh Seigneur, tu n'as pas de chaudière, tu n'as rien pour puiser. Puis le puits est profond. Je suis allé à ce puits-là en Israël, il y a 10 mètres de profond. Tu n'as rien à puiser. Il est en train de parler du salut éternel. Tu n'as pas de chaudière. Malgré ce qui est là, je suis là. Il n'a pas dit, allez, tais-toi, là, on va te faire le sermon, là, puis avance-toi. Les chrétiens parlent beaucoup, mais témoigner, c'est aussi écouter. C'est à l'écoute de la personne, à l'écoute de Dieu. Pour rencontrer la personne, et non seulement ils ont écouté, non seulement ils s'élèvent, ceux qui témoignent les guides, mais ils évitent le non-essentiel. Lorsqu'elle lui a dit « Es-tu plus grand que notre père Jacob? » Elle mettait le doigt sur le conflit historique de génération en génération entre les Samaritains. « Es-tu plus grand que notre frère Jacob? » Elle disait à Jésus, le Fils de Dieu, « Es-tu plus grand que notre père Jacob? » Jésus aurait pu lui répondre, parce que dans Genèse, Jésus, on appelle ça une christophanie ou une théophanie. Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel, qui est plusieurs considèrent qu'il était Jésus lui-même. Alors, Jésus aurait pu répondre « Plus grand que Jacob? » J'ai lutté avec Jacob, là, 1000 ans. Je l'ai transmis. Elle n'aurait rien compris. C'était une théophanie. Est-ce que je peux parler aux chrétiens pendant un instant? Laisse-toi pas. Tu n'es pas là pour témoigner des fins points de la doctrine. Non, on n'est pas là pour parler et débattre l'avortement, débattre et parler. Lorsque tu témoignes ta foi, c'est pas parler et débattre l'avortement. Il y a une position chrétienne que nous avons. Mais à ce moment-ci, on est en train de témoigner notre foi, comme Jésus avec elle. Ah, tu n'es pas là pour débattre et pour faire le combat sur l'avortement, sur le mariage gay, sur l'âge de la terre, sur ta théologie et ton langage chrétien que personne ne comprend. Tu es là pour expliquer qui est Jésus, ce qu'il offre et comment tu peux le recevoir. Reste sur l'essentiel. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Et les guides comprennent le principe, ils s'engagent parce qu'ils comprennent, je termine avec ça, ils comprennent toute la notion du « ensemble ». Celui qui moissonne et qui reçoit une récompense amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Un est celui qui sème. Un autre est celui qui moissonne, Jésus dit à la Samaritaine et aux Samaritains qui arrivent. Mais moi, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas encore travaillé. Et d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Celui qui moissonne, celui qui sème ensemble. Dans le mois de décembre, il va y avoir toute une équipe. C'est d'une certaine façon, moi, je vais moissonner avec vous. Je vais prier, jeûner, avoir un message, faire des appels et croire, comme à chaque année. Des dizaines vont répondre à l'appel, centaines. Mais ensemble, il y a ceux qui, pour que la moisson puisse prendre place, ça prend des gens qui ont semé. Si vous êtes assis ici aujourd'hui dans cette église, avec ces bâtiments, avec tout ce qu'il y a, si on offre tous ces paniers, si nous servons, si nous pouvons donner des centaines de milliers de dollars de nourriture, d'aide ici et partout à travers le monde, c'est parce qu'il y a des gens depuis qui sont assis ici, qui depuis 5, 10, 15, 20 ans, sèment, donnent, s'impliquent. Là, quelqu'un qui dit, oh, ben gardons. Ça allait tellement bien le message, il revire ça, générosité financière, j'en reviens pas. Voyons donc si Jésus parlait de tout ça. Voyons donc si c'est pas semer ma vie, semer mon cœur, semer mes prières, semer mes invitations. Non, non, l'apôtre Paul reprend la même pensée dans son chapitre sur la générosité à la moisson. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, 2 Corinthiens 9, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. C'est un chapitre entier sur la générosité d'une offrande qui avait été prise par les églises de Macédoine pour des gens dans le besoin. Regardez ce qui va arriver. Dieu va vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Moi, toute la semaine, j'étais dans mon cœur, je portais dans mon cœur ces mots de Jésus. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. C'est normal lorsqu'un enfant naît dans sa maison pendant plusieurs années, d'autres travaillent puis lui en bénéficie. Alors qu'il grandit, alors qu'il mature, il vient pour prendre sa place. Il y a des gens qui sont ici, que vous êtes tout nouveau et vous bénéficiez de la générosité, de la semence, de la fidélité financière, des dons. Il reste 6 offrandes d'ici la fin de l'année et on ne peut pas faire tout ça, les concerts, on peut juste le faire si les 4 000 personnes de Nouvelle-Vie disent « Moi, je vais donner ce que avec sacrifice, je vais semer, je vais prendre ma place. Puis les gens qui sont ici, que c'est une première année, une deuxième année, vous êtes en train de commencer tout ça, vous êtes comme un enfant dans la foi. Mais il y a des gens qui sont ici depuis 2, 5, 10 ans, 15 ans, et vous récoltez, vous êtes dans la récolte, alors que d'autres ont semé, mais jusqu'à maintenant, vous avez été un passager, vous avez été un consommateur, vous avez été un touriste à la croix. Où vous y allez, apprenez un petit peu du langage, prenez un petit peu les vêtements de la place, un petit peu de langage, mais ne vous engagez pas. J'apprie et j'appelle ce matin chaque personne à dire, moi, j'ai une part à faire de prière, d'invitation, j'ai une part à faire de bénévolat, j'ai une part à faire, mais j'ai aussi, je vais semer. Et là, l'apôtre Paul dit, voici ce qui arrive. Il reprend presque mot à mot les paroles de Jésus qui a dit, tu vois, alors que vous allez semer et que moissonner, ils vont récolter tout le monde ensemble. Il continue le verset 2 Corinthiens en disant, car le secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins des démunis, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considérant le secours dont ils font l'expérience, ceux qui reçoivent l'aide glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la générosité de ceux qui offrent la vie, de la générosité de vos dons envers eux tous. En ce mois de décembre, nous allons offrir la vie à Noël ensemble à des milliers de personnes. Nous allons offrir le secours et l'espoir à des milliers de personnes. Et à Noël, nous allons proclamer le message et nous allons entrer dans ce que j'appelle la gratification la plus glorieuse de l'offre de la vie. Parce que Jésus dit, celui qui sème, celui qui récolte ensemble, il y a une récompense qui va être tellement grande ensemble. J'ai lu le texte la semaine dernière, les Samaritains montent vers lui. Alors qu'ils s'approchent, ils entendent le message de Jésus et ils disent à Jésus, resterais-tu avec nous? Je t'ouvre ma vie maintenant. Jésus reste avec eux. Et après, ils disent à la Samaritaine, maintenant, on l'a entendu pour nous-mêmes. À cause de toi, on l'a entendu. Mais maintenant, on l'a entendu pour nous-mêmes. Et maintenant, nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de les Samaritains ont proclamé, je vais inviter les musiciens à s'approcher. Les Samaritains ont proclamé dans Luc chapitre 4, la fin de ce texte-là, ils ont dit, nous savons, on l'a entendu pour nous-mêmes. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et là, on dirait, oui, mais ça, c'est à cause de Jésus. Mais Jésus dit, en fait, c'est à cause de lui. Et c'est à cause des serviteurs fidèles qui l'ont partagé. Et l'apôtre Paul reprend la même pensée dans Thessaloniciens lorsqu'il dit, « Maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur, quelle action de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous. » À cause de Jésus, mais à cause de vous. Et dans la vie, dans l'expérience humaine, il n'y a pas de plus grande gratification que dans nos moyens tellement limités, on a offert ce que nous avions de mieux, on a sacrifié une portion de nous-mêmes, on s'est donné et Dieu s'en sert, on a semé et Dieu amène la récolte. Et pendant le mois de décembre, janvier, février, dans la prochaine année, de voir mes fils, vos fils et filles, frères et sœurs, pères et mères, compagnons, confrères, amis, gens de notre ville, rétrogrades, revenir au Seigneur à cause de lui, mais à cause de nous ensemble, et la plus grande récompense, la plus grande joie qu'un peuple peut avoir ensemble, nous allons offrir la vie dans le nom de Jésus. Et l'Église Nouvelle Vie dit un dernier grand Amen. Vous savez, il y a quelques semaines, il y avait une délégation de... Il y avait une délégation d'un mouvement américains qui implantent des églises partout dans le monde, qui étaient ici au Québec, puis sont venus, puis ils étudient Nouvelle Vie, puis ils veulent être partenaires avec nous, puis ils n'arrêtaient pas de demander, c'est quoi votre, qu'est-ce que vous utilisez comme méthodologie pour gagner tellement d'âmes et tout ça, puis je dis, est-ce que vous faites des grandes croisades, est-ce que vous faites, je disais, non, c'est la vie, c'est des gens qui, et je leur ai montré une étude que j'ai lue cette année qui fait juste confirmer une réalité qui est mondiale. L'université Liberty University est une université chrétienne, avec plus de 50 000 étudiants. Ils ont une faculté de médecine, une faculté de loi, de sciences et tout ça. Mais ils ont aussi une faculté, un département de mission mondiale et pour le ministère de développement, pour le ministère. Et ils ont fait une étude où ils ont mandaté les mathématiciens de leur université de faire toutes les études statistiques sur la notion de comment on peut atteindre le monde avec l'Évangile. Ça semble tellement immense, on est juste ici à longueur. Comment est-ce qu'on peut atteindre le monde? Comment est-ce qu'on peut gagner le monde? Et souvent, on pense que ça prendrait... On veut juste avoir quelque chose de wow, quelque chose d'immense, quelque chose de... Et ils ont fait cette étude qui est mathématiquement prouvée que si nous pouvions avoir un stade, pensez au stade olympique, avec 50 000 personnes dans le stade, 7 jours sur 7, imaginez-vous le budget, 7 jours sur 7, pendant 35 ans, 7 jours, 35 ans de croisade, 7 jours sur 7, 50 000 personnes par soir. Vous dites, waouh, ça c'est, wouh, ça va changer le monde. Et disons qu'il y aurait 1000 personnes par soir qui se convertiraient à Jésus-Christ, alors que c'est à peu près ça, 5 % de résultats dans les stades d'évangélisation. Après 35 ans, il y aurait beaucoup moins de chrétiens sur la terre qu'au début, à cause du taux de natalité mondiale exponentielle. Tu aurais perdu du terrain 35 ans plus tard. Mais s'il n'y avait aucun chrétien sur la terre excepté toi, et que tu témoignais et gagnais une personne au Seigneur la première année. Une. À la fin de l'année, vous êtes deux. Mais ces deux-là, l'année suivante, gagnent chacun une personne au Seigneur. 35 ans plus tard, la terre entière serait convertie. Les 4 milliards, la terre entière serait convertie. Vous dites, ça ne se peut pas. Vous irez vous assister avec les mathématiciens de l'université, Liberty University. Savez-vous pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus n'a pas descendu dans le stade de Rome devant des milliers? Pourquoi est-ce qu'il s'est assis avec une femme sur le bord d'un puits à qui personne ne voulait parler? Parce que de elle à son village, de eux qui proclament, 2000 ans plus tard, nous allons voir la source de vie changer des multitudes. Une personne à la fois, ensemble, qui vont venir chanter « Merci pour la croix, digne est l'agneau ». Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut applaudir pour vrai une ovation ensemble pour ce que le Seigneur va faire?